avec Cité Radio. Suivez la positive info tout au long de l'année sur le 89.3.
Le mardi à 20h et le dimanche à 22h, partez sur la route du blues. Tous les itinéraires du blues depuis les Champs de Coton jusqu'à aujourd'hui sont explorés chaque semaine avec le plaisir d'écouter une musique universelle. La route du blues, c'est à retrouver tous les mardis à 20h et tous les dimanches à 22h sur Cité Radio, la positive info.
Cité Radio vous donne rendez-vous.
Tous les lundis en direct de 18h30 à 19h30, retrouvez le sport sur son 37, le rendez-vous sportif de Cité Radio. Durant 60 minutes, Benjamin Hermite, Kevin Laurent, Soline Desnaux et Guillaume Colomba décryptent tous les résultats et les actualités des clubs sportifs de Touraine en compagnie d'invités. Le sport sur son 37, c'est à ne pas manquer en direct le lundi à 18h30 et en rediffusion le mardi à 13h sur Cité Radio, la positive info. Bonsoir à tous et bienvenue sur Cité Radio dans votre émission Tout en Hauteur. Ce soir, nous vous proposons une émission spéciale polar et thriller. Nous recevrons Noémie Adenis qui présentera Le Jardin des Anatomistes paru aux éditions Robert Laffont. Puis nous retrouverons Bernard Minier qui évoquera ses nouvelles actualités avec Les Effacés, son nouveau thriller événement publié aux éditions XO. Puis rencontres avec Karine Gibel et Barbara Abel qui présenteront respectivement Et chaque fois mourir un peu et Comme si de rien n'était, deux thrillers épatants et addictifs à découvrir aux éditions Ricamier. On se retrouve tout de suite.
Tout en Hauteur sur Cité Radio. Guillaume Colomba.
Bonjour Noémie Adenis.
Bonjour Guillaume.
Et merci de répondre aux questions de Cité Radio. On va d'abord parler un petit peu de vous et de votre parcours. Comment est venu cet amour pour les mots en tant qu'écrivaine et comment vous êtes-vous spécialisée dans le polar historique ?
Moi j'ai toujours aimé beaucoup lire. Je pense que l'écriture, c'est tout simplement un prolongement de mon plaisir de lire, finalement. J'ai toujours eu des histoires un petit peu dans la tête, hein, qui tournaient. Et un jour, j'ai eu envie de leur donner vie. Et alors, pourquoi le polar historique ? Tout simplement parce que c'est un genre, hein, que j'aime beaucoup, moi aussi. J'en ai lu beaucoup pour la jeunesse aussi, en étant enfant. J'ai été très marquée aussi par mes lectures, pareil, de jeunesse, les Dumas. Donc finalement, même si j'ai des lectures qui sont assez éclectiques, c'est vrai que le polar historique, ça a toujours été quelque chose qui m'a beaucoup marquée, beaucoup fascinée, et parce que j'ai vraiment aussi un amour pour l'histoire en parallèle.
Oui, et donc vous avez cité Alexandre Dumas, il y a d'autres auteurs que vous aimez ?
Alors oui, il y en a beaucoup. C'est difficile de trouver d'en citer juste quelques-uns, mais parmi les livres qui m'ont marqué et donné envie d'écrire, il y a eu par exemple les livres de Ken Follett, Les Piliers de la Terre, par exemple. J'ai beaucoup aimé aussi Les Rois Maudits, toute la série m'a vraiment donné envie à la fois de faire des recherches historiques et d'écrire aussi à mon tour sur des périodes historiques.
Voilà, donc c'est ce qu'on retrouve dans votre nouveau roman. Donc Le Jardin des Anatomistes, hein, c'est votre nouveau livre qui est paru le 1er février 2024 aux éditions Robert Laffont. Alors est-ce que vous pouvez évoquer l'histoire de ce polar historique avec Sébastien de Noilla, un herboriste de profession qui passe une soirée entre amis mais dont l'un d'entre eux est retrouvé mort ?
C'est un polar historique qui va nous emmener dans le Paris de la seconde moitié du XVIIe, dans le milieu de la chirurgie et plus particulièrement de l'enseignement de chirurgie qui était donné au Jardin du Roi, c'est l'actuel Jardin des Plantes, hein, de Paris. Et en fait, dans cette histoire, on va suivre le personnage de Sébastien, qui est effectivement un herboriste, hein, comme vous l'avez dit, et qui débarque à Paris. Et à peine arrivé, hein, malheureusement pour lui, il va se réveiller aux côtés d'un cadavre. Le commissaire qui va être chargé de cette enquête va accuser son ami, Charles. Et Sébastien, c'est un personnage qui est très anxieux, il va tout de même chercher à l'innocenter. Et c'est comme ça qu'il va se retrouver finalement mêlé à une série de, de meurtres assez particulières, puisque on va se rendre compte que toutes les victimes ont subi une opération chirurgicale contre leur gré.
Donc, vous l'avez dit, l'enquête sur ce meurtre est confiée au commissaire Parisot qui accuse Charles. Et donc, Sébastien va mener l'enquête de son côté pour innocenter son ami. Justement, comment avez-vous conçu l'intrigue de votre roman et comment s'est fait le travail avec les éditions Robert Laffont? Donc, un travail de recherche, de documentation autour du Paris du XVIIe siècle?
Alors oui, alors ça commence, le point de départ, c'est un gros travail de documentation qui va durer à peu près 6 mois. Alors dans le cas du Jardin des anatomistes, c'est surtout sur la thématique de la chirurgie, puisque cette thématique-là me demandait pas mal de travail, puisque je ne suis pas chirurgienne. Et ensuite, à côté de la chirurgie, il va y avoir tout le reste, hein, tout le décor finalement, qu'il va falloir planter aussi. Donc le Paris du XVIIe, essayer de restituer quelque chose de cohérent, de crédible, de pas faire d'erreur. Donc c'est d'abord un gros travail de recherche. Je dirais qu'ensuite l'intrigue et la construction de l'intrigue, elle vient finalement un petit peu après, parce que on a d'abord besoin d'avoir finalement un socle historique déjà assez solide pour pouvoir se lancer dedans. Et finalement, après, c'est plus un travail de va-et-vient entre l'histoire et les sources. On est obligé d'y revenir assez régulièrement, finalement, pour vérifier certaines choses. Est-ce qu'on peut faire ça? Est-ce qu'on est-ce qu'il n'y a pas d'erreur? Donc, je dirais que c'est un petit peu après un dialogue entre l'histoire, la fiction, ce qu'on est en train d'inventer, et la base des connaissances historiques. Et donc moi après j'ai travaillé de mon côté et j'ai envoyé une version terminée à mon éditrice, qui elle-même ensuite m'a fait des retours, et après on entre dans un second travail sur le livre, où finalement c'est l'éditeur fait des recommandations et on va travailler encore une seconde fois finalement d'une façon différente sur l'histoire, sur l'intrigue.
Oui, donc en tout cas un travail important pour concevoir ce livre avec les éditions Robert Laffont. Et depuis la sortie du livre, il y a maintenant 2 mois, vous avez eu des bons retours du public, des lecteurs, des internautes?
Oui, alors je suis contente, parce qu'effectivement j'ai eu des bons retours. C'était un petit peu stressant aussi, hein, la sortie d'un livre. À la fois on est très heureux en tant qu'auteur, et en même temps c'est un moment qu'on appréhende un petit peu forcément, parce que puis c'est un deuxième livre aussi, donc on se demande toujours si les lecteurs qui ont aimé le premier livre seront sensibles au second. C'est une sortie qui s'est très bien passée, et j'ai eu la chance d'avoir des retours positifs. Donc c'est une belle sortie, et ça m'encourage à continuer.
Eh ben on est ravis pour vous. Et justement, est-ce qu'on peut dire quelques mots de votre premier livre, Le Loup des Ardents, qui avait reçu le Grand Prix des Enquêteurs 2021 et le Prix Polar en série 2022?
Alors du coup, le Loup des Ardents, donc c'est aussi un polar historique, un petit peu différent quand même. Là, on est dans un huis clos qui se passe dans la Sologne très rurale du XVIe siècle. Donc on est bien 100 ans plus tôt, et on est dans un petit village qui va, en fait, les habitants vont se retrouver finalement prisonniers après de grosses chutes de neige, et ce village va être frappé par une mystérieuse épidémie. C'est un roman noir, et dans ce livre, ce livre me permet plus d'aborder tout ce qui va être les croyances, les superstitions, alors que le Jardin des anatomistes, on va plutôt parler des nouvelles découvertes médicales.
Oui, donc vous le disiez, il fallait confirmer avec ce second roman, hein, puisqu'on rappelle que Le Loup des Ardents a été lauréat du Grand Prix des Enquêteurs 2021 et le Prix Polar en série 2022. Et voilà, ça vous encourage effectivement à continuer pour la suite. Et justement, vous aurez des rencontres qui sont prévues prochainement en librairie, dans des salons?
J'ai plusieurs rencontres qui sont prévues de salons là pour le mois de mai, juin, avec une petite pause pendant l'été, mais après beaucoup aussi au mois de septembre.
Et pour vous, quel est le rôle de l'écrivain dans notre société?
Le rôle, il peut en avoir énormément, hein, j'ai envie de dire. Mais je pense que c'est déjà de faire rêver aussi. Je pense que c'est important. Je pense qu'en tout cas, moi, en tant que lectrice, c'est parfois ce dont j'ai besoin, finalement, pour me sortir un petit peu du quotidien. C'est quelque chose qui est important. Je pense que c'est ça, c'est vraiment fondamental, faire rêver et il peut en avoir d'autres. Moi, je dirais pas que mon rôle, c'est d'apprendre des choses aux gens. C'est vrai que j'écris des romans historiques, mais j'ai pas cette prétention-là. J'ai juste envie, en fait, de pouvoir faire passer un bon moment aux lecteurs, aux personnes qui me liront.
Eh bien, tout est dit, c'est parfait. Vous pensez donc déjà à un prochain livre?
Oui, c'est finalement après quand on c'est dur de s'arrêter, hein, c'est enfin je pense que quand on est mordu après par l'écriture, on a toujours envie de continuer, on a vite une autre idée en tête et le besoin de la concrétiser. Donc là, je continue de travailler. Alors pour l'instant, je suis encore très sur de l'historique. Et après, c'est un projet qui est encore en cours, donc on peut pas encore en dire grand-chose, mais en tout cas, c'est en bonne voie.
Mais en tout cas, on vous souhaite le meilleur pour votre nouveau livre, Le Jardin des Anatomistes. Donc, c'est votre polar historique qui est paru aux éditions Robert Laffont. Un grand merci, Noémie et Adenis, d'être intervenus sur Cite Radio pour nous parler de ce livre. On vous souhaite le meilleur pour l'année 2024. Prenez soin de vous et à bientôt.
Merci beaucoup.
L'actu locale en Touraine, c'est sur Cite Radio 89.3.
Tout en hauteur. L'invité.
Place au livre sur Cité Radio, La Positive Info, et nous sommes ravis de retrouver Bernard Minier pour évoquer sa nouvelle actualité littéraire. Bonjour Bernard Minier.
Bonjour.
Et ravi de vous retrouver sur Cité Radio. Alors, comment allez-vous en ce début d'année 2024 pour aborder la promotion de votre nouveau livre?
Ça va très bien, comme quelqu'un qui court partout, en fait, hein, qui saute d'un train à une voiture, à un métro, à un studio de radio ou de télé, ou à une rédaction de journal, mais c'est très rigolo à faire quand ça dure pas trop longtemps.
Et puis, donc, on va évoquer votre actualité littéraire avec Les Effacés, votre ouvrage paru le 4 avril 2024 aux éditions XO. Alors, est-ce que vous pouvez évoquer l'histoire de ce thriller machiavélique où l'on retrouve Lucia Guerrero de la Guardia Civile dans une double enquête sur deux tueurs et se déroulant en Galice et à Madrid?
Oui, donc vous avez déjà dit une bonne partie du pitch, en fait. Oui, il y a deux enquêtes, c'est vrai. Il y a une enquête qui concerne des femmes qui se lèvent très tôt le matin pour aller travailler, qui se lèvent avant tout le monde, en tout cas avant les gens comme moi, et qui sont kidnappées sur le chemin du travail en Galice, c'est-à-dire à l'ouest de l'Espagne, cette région pleine de brume, de pluie et de crachin, donc des ambiances comme je les aime. Et de l'autre côté, il y a un deuxième tueur qui s'en prend aux ultra-riches, en quelque sorte, à Madrid même, dans leur résidence, et qui laisse ce message sur les murs, tuant les riches. Et Lucia Guerrero, mon enquêtrice, qu'on a déjà découvert dans le premier Lucia, qui était en Galice pour enquêter sur ces disparitions, va être appelée en urgence à Madrid pour s'occuper en priorité, évidemment, des ultra-riches.
Et comment avez-vous conçu l'intrigue de ce nouveau livre? Est-ce une manière de montrer dans ce thriller les inégalités et surtout deux mondes dans une même société?
Oui, complètement. Oui. Deux mondes qui se côtoient sans vraiment se côtoyer, sans vraiment se connaître. Comment je l'ai conçu? En fait, j'étais en Galice et je regardais en même temps que les bateaux sortaient du port, c'est-à-dire très très tôt le matin, hein, quand la nuit était pas encore tout à fait levée, je regardais ces femmes qui rasaient les murs et qui s'en allaient travailler avant tout le monde, comme je lui ai dit. Et en même temps, dans la même journée ou peu de temps après, j'ai lu dans la presse un article sur les plus grandes fortunes espagnoles et je me suis dit que le rapprochement entre les deux était intéressant. C'est un peu comme ça que l'idée m'est venue.
Et dans ce livre, vous évoquez le thème des violences faites aux femmes et notamment le phénomène des incels. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots sans trop divulgacher?
Alors, les incels, c'est la contraction de deux mots anglais, involuntary celibate, c'est-à-dire célibataire involontaire. C'est des hommes qui n'arrivent pas à maintenir ou à entretenir ou à avoir des relations avec les femmes, que sentimentales, sexuelles, et qui se lamentent sur leur propre sort, sur des forums qui leur sont dédiés, sur Internet, et qui en même temps prônent quand même la misogynie, la violence contre les femmes, la haine des femmes, voire même qui sont dans une sorte de guerre contre les femmes parce qu'ils estiment que les droits des hommes sont bafoués. Les leurs en tout cas, et ça peut déboucher sur des violences, ça a été le cas à plusieurs reprises. Alors c'est un phénomène qui est très présent dans les pays anglo-saxons, qui s'installent aussi en Europe. Hein. On en trouve en Espagne, on en trouve aussi en France. J'en parlais récemment avec des jeunes femmes, des très jeunes femmes qui me disaient que le machisme était quand même de retour dans leur génération aussi.
Bon, en tout cas, ce thriller de 415 pages est très palpitant, un véritable page-turner addictif avec de nombreux rebondissements, des chapitres courts, une écriture très ciselée. Quels sont déjà les premiers retours? Ils sont très encourageants à la fois des lecteurs et des internautes depuis la sortie du livre il y a 2 semaines?
Oui, tout à fait. Les lecteurs, les internautes, la presse, dans leur grande majorité, les retours sont très très bons. Après, il y a toujours quelques grincheux au milieu, mais bon, il y en a. On peut être le meilleur. On peut être le meilleur dans son ou pas d'ailleurs, mais dans son genre, on peut en sport, en science ou en art, on peut être Kobe Bryant ou Leonardo DiCaprio. Il y aura toujours quelqu'un pour trouver que ce que vous faites, c'est nul. Mais voilà. Mais en dehors de ça, oui, les retours sont très 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 très, très positifs et tant mieux. Moi, je crois beaucoup dans ce roman. Je trouve que le sujet, en tout cas, moi, m'a passionné. Ça, j'ai pris énormément de plaisir à l'écrire et puis à retrouver Lucia. C'est parce qu'en fait, Lucia, ça me change un peu de Martin Servaz. Lucia, c'est une autre génération, c'est une femme, c'est une Espagnole. Donc, ça me permet un autre point de vue sur la société et sur plein de choses.
Et puis il y a aussi le monde artistique qui est évoqué dans le livre. Vous avez un lien particulier avec ce milieu?
J'ai une passion depuis toujours pour l'art. Pour en particulier l'art de la Renaissance, la peinture de la Renaissance. Et d'ailleurs, je m'en étais servi dans le premier Lucia, puisque le tueur en série s'inspirait de tableaux de la Renaissance pour mettre en scène ses victimes. Là, c'est l'art contemporain. C'est presque un hasard. En fait, l'une des villes où se passe l'action, en dehors de la Galice et de Madrid, c'est Cuenca, qui est un extraordinaire village médiéval, enfin plutôt résistance, caché sur un petit rocheux, avec des maisons suspendues au-dessus de la falaise. Et dans l'une de ces maisons, il y a un petit musée d'art abstrait qui est absolument formidable, avec des grands peintres espagnols de la seconde moitié du XXe siècle. Et ça m'a tellement passionné que j'ai eu envie de nouveau de parler d'art, et là, pour le coup, d'art moderne et d'art contemporain plutôt. Donc on retrouve, oui, on retrouve toute cette enquête criminelle finalement liée à l'art. Mais c'est quelque chose que j'aime faire, j'aime partager mes passions avec mes lecteurs.
Eh ben, tout est lié, c'est parfait. Et vous étiez présent récemment au Festival du Livre de Paris. Il y aura d'autres rencontres qui sont prévues prochainement en librairie, dans des salons?
Oui, alors bientôt j'irai à Rennes. J'ai pas toutes les dates en tête, mais je dois aller aussi à Aix-en-Provence, à Toulon. Voilà, j'étais à Lille hier, j'ai été la semaine dernière à Agen et à Toulouse. Il y a encore pas mal de rencontres qui sont prévues. J'ai aussi des voyages étrangers, puisque j'ai été depuis le début de l'année en Pologne, en Bulgarie et en Espagne, et je serai au mois de mai à Athènes. Donc il y a beaucoup, beaucoup de voyages en perspective, oui.
Et puis on peut dire aussi, Bernard Minier, que vos livres ont été traduits dans de nombreux pays et ils ont été récompensés notamment par le prix Polar au Festival de Cognac, le prix de l'Embouchure, le prix du meilleur roman francophone du Festival de Cognac en 2015. Cela vous fait chaud au cœur de recevoir toutes ces distinctions et que vos ouvrages soient bien accueillis par le public et la critique?
Ben moi, c'est d'abord les lecteurs c'est l'accueil des lecteurs qui m'importe le plus. Les prix, c'est bien, mais bon, on sait comment ça marche, les prix, des fois, hein. Pas tous, hein. Il y a des prix qui sont vraiment des prix du public, et puis il y a des prix qui sont, donc on est quelques-uns, qui sont des espèces de marchandages entre maisons d'édition. Donc, ce qui m'intéresse, moi, c'est l'accueil du public, évidemment, c'est les lecteurs. Et là, j'ai, par exemple, au Salon de Paris ce week-end, j'ai remarqué qu'il y avait beaucoup, beaucoup de jeunes, plus que d'habitude, j'ai trouvé. Et ça, c'est une formidable nouvelle. On nous dit que la jeunesse lit de moins en moins. Au Salon de Paris, les jeunes étaient très présents.
Eh bien, on est ravis pour tout cela. On précise donc que votre livre Les Effacés est donc paru aux éditions XO. Il y a également la réédition en format poche de votre précédent ouvrage, Un œil dans la nuit, hein, chez Pocket. Et puis
Oui.
donc parmi les projets, il y aura notamment une adaptation de Lucia à l'écran.
Oui, il y aura. Alors ça, c'est une formidable nouvelle parce que c'est une belle récompense, étant donné que c'est un roman avec une héroïne espagnole qui se passe en Espagne avec des crimes. Mais c'est quand même un roman écrit par un auteur français. Or, la télé espagnole va s'en emparer, puisqu'on a un producteur qui a acheté les droits, qui veut faire une série avec des acteurs espagnols, tournée en Espagne évidemment. Donc c'est quand même une belle reconnaissance. Et puis c'est un très gros producteur. C'est vraiment des gens qui ont des qui ont fait tourner plein de. Voilà, il a fait tourner des gens comme De Niro, comme Ryan Reynolds, comme Javier Bardem, comme Penélope Cruz. Donc c'est quand même du très lourd. Et puis aussi, je voudrais quand même vite en parler très vite. Il y a aussi à côté du livre audio, du livre de poche pour un œil dans la nuit, du grand format pour les effacer, il y a aussi le livre en braille, parce que je suis le parrain du centre de transcription et d'édition en braille, cette association qui est la première en France à faire des livres en braille, mais aussi des relevés bancaires et plein d'autres choses, et qui est en danger économique. Parce que ça coûte très cher, les livres en braille à fabriquer. Et si on veut les vendre au prix unique du livre, à un prix accessible pour les malvoyants et les non-voyants, ben, ils perdent de l'argent. Donc voilà, ils ont besoin de dons, ils ont besoin de soutien des pouvoirs publics et on tire un peu la sonnette d'alarme.
Eh bien, l'appel est lancé. On espère qu'il sera entendu, Bernard Minier. Et puis, évidemment, vous avez d'autres projets avec d'autres livres en tête.
Je suis déjà avec Servaz, moi. Il va revenir, évidemment. C'est pas parce que je l'ai mis en congé pendant quelques temps. Oui, moi, je suis déjà sur le prochain. Je n'aime pas les vacances. Et donc, je peux pas passer 2 jours sans écrire. Donc, je suis déjà en train de réfléchir. J'ai écrit aussi des nouvelles, pas seulement du noir, du fantastique, de la science-fiction, un peu de tout. Certaines très anciennes, même antérieures à mon premier roman glacé, d'autres beaucoup plus récentes.
Bon, en tout cas, on vous souhaite le meilleur pour l'année 2024, Bernard Minier. Merci beaucoup d'être intervenu sur Cite Radio pour nous
Merci à
parler de
vous.
vos actualités. On rappelle donc le titre de votre nouveau livre, Les Effacés, qui est donc paru aux éditions XO. On vous souhaite donc une très bonne journée. Prenez soin de vous et à bientôt.
Merci.
Vous écoutez Cite Radio.
Dans un instant, nous accueillerons Karine Gebel et Barbara Abel, mais pour leur place, c'est la musique avec Stevie Wonder.
À Saint-Pierre-des-Corps, branchez-vous sur le 89.3 pour écouter Cité Radio, la positive info. L'essentiel de l'actualité littéraire est dans Tout en auteur avec Guillaume Colomba sur Cité Radio.
Bonjour Karine Gibel.
Bonjour.
Et merci de répondre aux questions de Cité Radio. On va d'abord parler un petit peu de vous et de votre parcours. Comment est venu cet amour pour les mots en tant qu'écrivaine et comment vous êtes-vous spécialisée en tant que reine du thriller français?
Oh ben, l'écriture, c'est un virus qui remonte à loin, très loin même, puisque j'écrivais déjà, dès que j'ai su écrire, j'ai écrit. Alors évidemment, j'écrivais pas des thrillers, mais j'écrivais des petites nouvelles, des histoires, etc. Et puis, en fait, je me suis aperçue très rapidement que toutes les histoires que j'écrivais étaient quand même assez noires. Et donc, j'aimais beaucoup le polar au cinéma, même si j'étais plutôt au niveau littérature, j'étais plutôt littérature classique. Et donc, mon premier roman, qui n'est jamais sorti d'ailleurs, je me suis dirigée tout de suite vers le polar, le thriller, quoi. C'est quelque chose, l'envie de parler de la société aussi, parce que le polar, c'est ça qui est bien, c'est qu'on parle pas de soi, en fait. On parle à la fois de l'être humain, de la psychologie, et aussi de la société qui nous entoure.
Et vous avez des auteurs favoris ?
Ah ben, mes auteurs favoris, en fait, dans le polar, pas tellement. J'ai peu d'influence, puisque j'ai commencé à en lire, en fait, à partir du moment que j'en ai écrit. Donc, bien sûr, il y a des auteurs de polar que j'aime beaucoup, hein, notamment R.J. Ellory, ou Franck Hillier, ou Barbara Abel. Je lisais énormément plutôt de littérature classique, donc mon auteur favori c'est Steinbeck. Donc, vous voyez, il n'est pas considéré comme un auteur de polar. Je lisais beaucoup Zola, Maupassant, enfin voilà, plutôt des auteurs classiques.
D'accord. Et puis donc on va maintenant évoquer votre actualité littéraire avec Et chaque fois mourir un peu, hein, c'est votre livre paru le 28 mars 2024 aux éditions Récamier. Alors, est-ce que vous pouvez évoquer l'histoire de ce thriller où l'on suit Grégory, un infirmier travaillant pour le Comité international de la Croix-Rouge qui parcourt les zones de guerre du monde entier pour sauver les victimes de conflits armés?
Ben, dans ce livre, oui, c'est ça. J'avais envie de rendre hommage aux humanitaires, au travail des humanitaires, et envie de parler du stress post-traumatique. Donc j'ai conjugué les deux avec ce roman, puisqu'effectivement on va suivre Grégory, qui est un jeune infirmier, qui a toujours voulu faire de l'humanitaire, et donc après l'obtention de son diplôme et quelques années d'exercice, il se lance, il part avec la Croix-Rouge internationale au Sud-Soudan, et puis ensuite on va le suivre au fil de ses missions, mais aussi entre ses missions, dans sa vie personnelle, qui est compliquée. Et donc ça commence en 1992, donc il va faire aussi la Bosnie, le Rwanda, la Tchétchénie, etc. Et toutes les rencontres qu'il va faire, il va apprendre aussi à la fois le bonheur de pouvoir sauver des gens, mais aussi la douleur de l'échec quand il n'arrive pas à les sauver. Et toutes ces missions vont devenir à la fois une drogue, parce que c'est vrai qu'il y a le risque, le danger, l'adrénaline. Mais vont aussi le mettre en péril sa santé mentale, parce que il va commencer assez rapidement à souffrir du stress post-traumatique, mais il ne va pas vraiment comprendre au début ce qui lui arrive, et puis surtout il va refuser de s'arrêter. Il va vouloir continuer coûte que coûte. Il va prendre de plus en plus de risques. Et donc c'est ça que je voulais montrer aussi, c'était au fil des années le poids de tout ce qu'il voit, de toutes les horreurs qu'il est obligé d'affronter sur les zones de guerre. Donc c'est un métier magnifique qui demande un courage hors du commun, du sacrifice, mais qui laisse des traces, en fait,
oui.
Des cicatrices.
C'est ça. Et donc, c'est un roman donc, qui évoque la guerre et donc tous ces soignants qui travaillent au péril de leur vie. Quel a été le point de départ de ce livre ?
Eh bien donc, c'est cette volonté de rendre hommage à ces gens qui sont qui sont capables de mettre leur propre vie en danger pour aller sauver celle des autres, tout en parlant de cet aspect, effectivement, du stress post-traumatique. Donc, j'ai créé un personnage de fiction, mais par contre, je l'ai envoyé sur de vrais conflits sur lesquels je me suis beaucoup documentée pour que ce soit à la fois réaliste et précis. Et donc, je suis partie comme ça. J'ai décidé que ça commencerait en 92 et que ça finirait, puisque là, on est sur le premier livre, il y aura un deuxième livre derrière.
Ouais.
Donc, ça finira de nos jours. Et je me suis documentée sur chaque conflit que j'ai décidé d'évoquer. J'ai pas pu tous les évoquer parce que malheureusement, il y en a eu énormément, il y en a encore énormément. Donc ça a été ce livre, c'est le fruit d'une longue enquête, et puis comme toujours, c'est aussi la création d'un personnage que j'essaie de développer au maximum. J'essaie de faire en sorte que le lecteur soit au plus près de ce personnage, qu'il ait l'impression d'être sur le terrain avec lui, de vivre ses missions avec lui, mais aussi, encore une fois, sa vie personnelle, parce que c'est aussi l'histoire d'un homme et toute sa vie, en fait. Ouais. Ce n'est pas seulement son travail, c'est aussi lui, sa vie et son histoire personnelle.
Voilà, donc en tout cas, ce roman de 480 pages est un vrai page-turner très addictif, avec des chapitres courts et une écriture très ciselée. Comment avez-vous travaillé avec Céline Toulouse et les éditions Récamier pour ce nouveau livre ?
Ah bon, alors je travaille avec Céline Toulouse, donc maintenant, qui est à la tête des éditions Récamier, mais je la suis depuis de nombreuses années. Ça fait, ben, je crois, 17 ans qu'on travaille ensemble. Donc comme toujours, en fait, moi j'écris d'abord mon livre, ensuite je lui fais lire. En général, je ne lui fais pas lire au fur et à mesure, donc une fois qu'elle lit le premier jet, on va dire, on en parle ensemble, on voit ce qui peut être amélioré, changé, précisé, etc. Donc je fais ensuite une seconde version. Là encore, qu'elle va relire, sur laquelle on va travailler ensemble. Et puis bon, après, c'est un travail classique de relecture. Je fais beaucoup de relecture, évidemment. Je retravaille essentiellement le style. Et puis après, il y a les corrections. Correction, quoi, pour que le texte soit nickel, voilà. Donc là, c'est vrai que ce roman-là, bon, j'ai presque terminé le tome 2, mais c'est un roman qui a pris, enfin, j'ai mis plus de 2 ans, enfin 2 ans et demi à l'écrire, en fait.
Voilà, donc un roman à découvrir en librairie. Et est-ce qu'on peut dire aussi quelques mots de Glen Affrique, votre thriller qui est réédité depuis le 27 mars 2024 en format poche aux éditions HarperCollins France, avec 3 histoires qui s'entrecroisent autour des personnages de Léonard, Jörg, Mathieu et Angélique, et dont l'action se déroule dans la vallée de Glen Affrique en Écosse.
Alors, Glen Affrique, oui, vient de ressortir effectivement en poche. Donc ça, c'était mon précédent roman. Donc là, on est complètement dans autre chose, parce que moi, j'aime bien changer quand même de roman en roman. Là, c'est l'histoire de Léonard, qui est un adolescent différent, qui souffre d'un retard mental, et qui essaye de, malgré ce handicap, de faire sa vie. Il a un rêve, parce qu'il ne sait pas où est son frère. Et la seule chose qu'il sait, c'est parce qu'il a une vieille carte postale de Glen Affrique en Écosse, puisque lui, il est en France, et qui a été envoyé par son frère des années auparavant. Et son rêve, c'est de retrouver son frère, d'aller à Glen Affrique pour retrouver son frère. En vérité, son frère n'est pas à Glen Affrique, donc voilà, j'en dis pas plus pour pas casser le suspense, mais voilà, donc on va suivre ce personnage et d'autres, notamment aussi sa mère, Mona. On va suivre toute l'évolution de ce personnage aussi, de cet adolescent. Et c'était un hommage, ce livre, alors là, pour le coup, à un de mes romans préférés, qui est, donc comme je le disais tout à l'heure, de John Steinbeck, Des souris et des hommes. Par petites touches, ceux qui l'ont lu reconnaîtront ces petites touches qui sont disséminées dans le livre, un petit peu comme des petits cailloux. Je voulais vraiment rendre hommage à Des souris et des hommes, qui est un livre qui m'a vraiment bouleversé, qui m'a marqué. Et donc, c'est pour ça que mon personnage s'appelle Léonard, d'ailleurs, en référence à Léni dans mon Des souris et des hommes.
Oui. Et puis donc, il y a 2 autres personnages, Georges, Mathieu et Angélique. Voilà, donc c'est un roman, un thriller psychologique qui met en valeur justement la différence et surtout l'injustice.
Oui, c'est ça. C'est en fait comment notre société aussi traite ceux qui sont différents, qui sont pas dans la norme, qui sont handicapés. C'est un livre aussi sur le harcèlement, notamment le harcèlement scolaire. Et Léonard va vivre tout un tas de péripéties, d'aventures, de drames aussi. Et surtout, est-ce qu'il va réussir à accomplir son rêve, finalement, qui est d'aller à Glen Affrique? Est-ce qu'il va retrouver son frère? Voilà, c'est ça les questions qu'on se pose en lisant ce roman.
Donc on n'en dira pas davantage, hein, Karine Gibel, mais voilà, donc ce livre est réédité aux éditions HarperCollins France. Vous étiez le week-end dernier au Festival du Livre de Paris. Il y aura d'autres rencontres qui sont prévues prochainement en librairie, dans des salons?
Oui, alors effectivement, là j'ai fait les Quais du Polar à Lyon et puis Paris. Là je vais aussi faire une dédicace dans une librairie à Aix-en-Provence le 27 avril. Et puis ensuite, j'aurai aussi le Salon de Nice au début du mois de juin. Et puis ensuite, bon, il y a la pause estivale, et puis après, il y aura les gros rendez-vous de la rentrée, comme par exemple Lire en poche à Gradignan en octobre, ou Brive en novembre, ou encore le Salon de Toulon aussi en novembre.
Et par le passé, vous aviez reçu notamment le prix marseillais du Polar, le prix SNCF du Polar français, le prix du Festival de Polar de Cognac et le prix des lecteurs du Var. Cela vous fait chaud au cœur de recevoir toutes ces distinctions et que vos ouvrages soient bien accueillis par le public et la critique ?
Bien sûr, oui, chaque prix, surtout quand c'est des prix des lecteurs, c'est un véritable encouragement en fait à continuer, à essayer aussi de se renouveler, parce que moi je pense que voilà, dans l'écriture j'ai pas envie de routine, j'ai pas de personnage récurrent d'ailleurs, donc à chaque fois je recommence et à chaque fois j'essaie de faire quelque chose de nouveau. Et c'est vrai que tous les prix que j'ai pu avoir, c'est vraiment un encouragement à continuer, à faire de mon mieux, à travailler. Et c'est vrai que quand je vais sur des salons aussi, les retours des lecteurs et la présence des lecteurs, c'est très important, parce que l'écriture, c'est un travail solitaire. On est face à sa feuille blanche, on est face à ses doutes. Et quand les lecteurs viennent vous dire voilà qu'ils ont beaucoup aimé un livre, qu'ils ont ressenti des émotions fortes, etc., bon, voilà, pour moi, c'est très important. C'est un encouragement, encore une fois, à dépasser mes doutes et puis à continuer à écrire, à faire ce que j'aime, en fait.
Et pour vous, quel est le rôle de l'écrivain dans notre société ?
Oh, je ne sais pas si... De toute façon, la littérature, c'est très important. Après, le rôle de l'écrivain, je crois que c'est d'essayer de... finalement d'aller sonder l'âme humaine et puis d'aller aussi alors autopsier les gens, mais pas quand ils sont morts, hein, quand ils sont vivants, c'est-à-dire vraiment essayer d'écrire sur toutes les facettes de l'être humain, mais aussi sur la société qui est la nôtre. J'ai fait un livre il n'y a pas très très longtemps sur l'esclavage moderne. J'écris beaucoup de nouvelles aussi, notamment pour les recueils qui sont chaque année publiés par Pocket au profit des Restos du Cœur. Donc c'est essayer d'avoir une vision aussi de ce qui nous entoure, de la société qu'on a créée, dans laquelle on vit, avec ses défauts, avec tout ce qu'elle peut engendrer aussi sur l'être humain, comment elle peut nous transformer, comment elle peut soit nous améliorer, soit au contraire... nous faire basculer dans quelque chose de moins bon. Voilà, il y a plein de questions comme ça. En tout cas, toutes ces choses qui m'interpellent, toutes les questions qu'on peut se poser, ben l'auteur est là pour essayer, non pas d'y répondre, hein, il faut rester modeste, mais en tout cas, voilà, au moins poser les questions et donner sa propre réponse, en fait, qui n'est qu'une réponse parmi d'autres. Mais en tout cas, je crois que l'auteur, c'est aussi quelqu'un qui a une vision de la société à un temps donné. Voilà, là par exemple dans le dernier qui vient de sortir, c'est vrai que j'avais vraiment envie de faire connaître un peu mieux aux lecteurs qui vont venir le travail de ces humanitaires, parce qu'on n'en parle pas tant que ça finalement. On n'a pas c'est pas des gens qui sont beaucoup mis en lumière. Et je trouve que c'est important, voilà, de parler de leur travail, de faire connaître leur travail. Voilà, ça fait partie des choses qu'on peut faire quand on écrit. Et je crois que c'est assez important. Moi, j'ai la chance de pouvoir m'exprimer au travers de mes livres. Et donc, voilà, j'en profite pour parler de ce qui m'interpelle, de ce qui me pose question et aussi de ce que j'admire.
Et ce qui est très juste. Et vous pensez donc au prochain livre. Donc vous l'avez dit, le deuxième tome qui est en passe d'être fini. Et vous avez d'autres livres en préparation ?
Non, pas encore. Là, vraiment, je me concentre sur terminer le livre 2 qui va suivre, hein, à l'automne. Et en général, j'ai rarement l'idée, ou alors je ne m'en rends pas encore compte. Mais voilà, je suis vraiment concentrée là-dessus. Et donc, pour l'instant, non, je n'ai aucune idée de ce qui suivra derrière.
Mais en tout cas, on encourage tous nos auditeurs et nos internautes à découvrir Et chaque fois mourir un peu. Donc, votre livre paru aux éditions Récamier, ainsi que Glenafrique, votre thriller qui est réédité aux éditions HarperCollins France en format poche. Un grand merci, Karine Gibel, d'être intervenue sur Cité Radio pour nous parler de vos ouvrages. On vous souhaite le meilleur pour l'année 2024. Prenez soin de vous et à bientôt.
Merci beaucoup. Merci à vous.
living in, but I'm not giving in, giving in to the blues. Long as I got my walking shoes, I'm gonna keep on keeping on, keep on keeping on, keep on keeping on, keeping on. All of sadness, hard to find the door. Worldwide madness, not like before. My hope is growing thin, but I'm not giving in, I'm giving in to the blues. Long as I got my walking shoes, I'm gonna keep on keeping on, keep on keeping on, keep on keeping on, keeping on. Mystery, will it ever come to be that in every human love will reign? 'Cause each time I breathe the air, I feel love everywhere, and even though sometimes I can't explain it, I'm gonna keep on keeping on, keep on keeping on, keep on keeping on, keeping on.
Raoul Midon sur Cité Radio avec Keep On Keeping On.
La positive info, c'est en Touraine que ça se passe, sur le 89.3 avec Cité Radio.
Tout en auteur. Guillaume Colomba.
Place au livre sur Cité Radio, La Positive Info, et nous accueillons Barbara Abel, la reine du polar belge, pour évoquer un thriller psychologique palpitant au suspense redoutable. Bonjour Barbara Abel.
Bonjour.
Et merci de répondre aux questions de Cité Radio. On va d'abord parler un petit peu de vous et de votre parcours. Comment est venu cet amour pour les mots en tant qu'écrivaine ?
Alors depuis toute petite, je suis une grande lectrice. Et puis à l'âge adulte, j'ai voulu m'essayer à l'exercice et ça m'a beaucoup plu.
Et vous avez des auteurs favoris ?
Alors des auteurs favoris, non. J'ai des livres favoris qui varient évidemment en fonction des époques de ma vie. Je me souviens de mes premiers amours littéraires qui allaient plutôt à Barjavel. Je me souviens de grandes passions pendant mes lectures, notamment à la nuit des temps de Barjavel. Voilà, des auteurs après comme Herbert Liberman. Voilà, enfin, donc La Maison près du Marais de Herbert Liberman qui m'a beaucoup beaucoup plu. Un autre livre qui m'a bouleversé, c'est La Promesse de l'Aube de Romain Gary. Voilà, c'est plutôt des livres.
Et comment vous êtes-vous spécialisée dans le polar et quelle est pour vous la recette d'un bon polar ?
Je me suis spécialisée dans le polar. Alors c'est pas tout à fait du polar, c'est plutôt du thriller. Je dois dire que je me suis avancer dans ce genre sans avoir trop de culture polar au début. C'était plutôt, j'écrivais le genre d'histoire que j'avais envie qu'on me raconte. Et voilà, il s'est trouvé que ça a été identifié comme du thriller, plus spécialement du thriller psychologique, du thriller domestique. C'est-à-dire que je mets toujours en scène des gens ordinaires qui pourraient être nous, nos voisins, nos amis, nos collègues, et à qui il va arriver une grosse tuile, on va dire. Et puis l'intérêt de l'histoire, c'est de savoir comment ils vont s'en sortir, et puis surtout s'ils vont s'en sortir. Mmh. Et puis les recettes, je dirais que en tout cas dans le thriller psychologique, il y a l'identification qui est très importante. S'identifier au personnage permet d'avoir de l'empathie pour lui et d'avoir envie de savoir ce qu'il va lui arriver. Et puis bon, voilà quelques recettes. Par exemple, souvent à la fin de quand j'arrive à la fin d'un chapitre, je me pose toujours la question de savoir tiens, maintenant qu'est-ce qui pourrait se passer l'évolution de la situation à laquelle on ne s'attendrait pas du tout. Donc je prends du temps à essayer de trouver les cliffs, les coups de théâtre, les retournements de situation auxquels le lecteur ne va absolument pas s'attendre. Et pour ça, encore une recette, c'est les premières idées qui me viennent à l'esprit, ben, je ne les utilise pas parce que je me dis si moi j'y pense tout de suite, le lecteur va y penser aussi. Et voilà, et donc j'avance dans l'histoire. En fait, je me dis, si moi j'arrive à me surprendre, il y a de fortes chances que j'arrive à surprendre mon lecteur. Voilà, c'est des petits trucs, des petites recettes comme ça qui pour le moment fonctionnent quand j'écris un roman.
Et c'est ce qu'on retrouve dans votre nouveau livre, Comme si de rien n'était, hein. C'est votre roman paru le 11 avril 2024 aux éditions Récamier. Alors, est-ce que vous pouvez évoquer l'histoire de ce thriller psychologique avec Adèle Moreau, maman d'un garçon de 8 ans et architecte d'intérieur, mais dont la vie va basculer après sa rencontre avec Hugues Lionel, le nouveau professeur de solfège de son fils?
Oui, c'est ça. C'est-à-dire que lui, en sortant du cours, donc il croit cette maman qui vient chercher son fils, Lucas. Il la reconnaît. Et voilà, il s'approche d'elle. Le petit souci, c'est qu'il l'appelle Marie, alors qu'elle s'appelle Adèle. Elle ne le reconnaît pas vraiment. Il se pose d'ailleurs la question de savoir est-ce qu'elle ne le reconnaît vraiment pas ou est-ce qu'elle fait semblant de ne pas le reconnaître. Et en avançant dans l'histoire, en fait, il la reconnaît parce qu'en effet, ils se sont croisés. Ils ont eu une aventure d'un soir il y a 9 ans et le doute va commencer à s'installer en lui parce qu'en effet leur rencontre date d'il y a 9 ans et Lucas, le petit garçon, a un peu plus de 8 ans et donc il va commencer à se poser des questions vis-à-vis de cet enfant. Voilà, je n'en dirai pas plus.
Mais justement, Barbara Abel, comment avez-vous conçu l'intrigue de votre livre où il est notamment question donc de la famille avec ses nombreux secrets et rebondissements?
Oui, en fait, alors la construction se fait vraiment au fil de la rédaction du roman. Oui. C'est-à-dire que quand je commence un roman, je pars toujours d'une situation qui m'intéresse au niveau de sa potentialité, c'est-à-dire les possibles chemins que je vais pouvoir emprunter pour raconter cette histoire, mais je n'ai pas vraiment d'idée de la fin, c'est-à-dire j'avance dans cette histoire sans vraiment savoir où je vais. Là, ce qui m'intéressait, c'était évidemment la confrontation entre ces deux personnages et les tensions psychologiques qui allaient pouvoir en découler. Et donc, du coup, j'avance comme ça, pas à pas, chapitre après chapitre. Alors, évidemment, je fais pas mal d'allers-retours puisque une idée en entraîne une autre que je dois induire et donc préparer le lecteur à cette idée depuis le début. Donc du coup, je dois revenir en arrière pour induire cette idée. Mais il n'y a pas vraiment de construction. Je ne pars pas avec un plan. Ma structure se construit au fur et à mesure. Et une fois que le roman est écrit, évidemment, j'aménage l'ensemble du roman en fonction de la fin que j'ai trouvée en cours de route.
Oui. Et vous dites d'ailleurs, je pense qu'une famille sans histoire, ça n'existe pas. On a chacun des cadavres dans le placard. C'est ce qui fait aussi notre personnalité, notre histoire et notre passé.
Oui, c'est ça. C'est-à-dire que Alors, ça reste du thriller psychologique. Hein. Je n'écris pas un précis ou un témoignage de vie réelle. Donc, ça doit rester quelque chose d'assez ludique. Mais c'est vrai que, comme je le disais tout à l'heure, l'identification au personnage est assez importante pour que on puisse trembler pour les protagonistes et savoir aussi dans quel camp on va se trouver. J'aime bien aussi quand il n'y a pas vraiment ni de bon ni de méchant. Chacun des personnages a un passé, a des fragilités psychologiques, des faiblesses, des forces aussi. Mais j'aime bien aussi quand finalement on peut comprendre les motivations de chacun et que ça se retrouve en fait à peu près dans chaque famille, chez chaque personne. Je pense qu'on est aucun d'entre nous n'est jamais tout blanc ou tout noir. Donc la complexité psychologique me plaît beaucoup.
Oui, et il me semble aussi que vous avez un lien particulier avec la musique.
Alors, non, je n'ai pas de lien particulier avec la musique. Ce qui se passe, c'est que j'ai en effet suivi des cours de solfège quand j'étais enfant. Je sais lire les notes, j'ai fait un peu de piano. Et c'est vrai que placer un des personnages dans une arène de professeurs de solfège était quelque chose qui m'était plus ou moins familier et qui me permettait justement de ne pas raconter trop de bêtises et de me replonger dans l'ambiance de mes cours de solfège et de mon apprentissage de la musique et de le retranscrire dans le roman pour donner une réalité tangible.
Bon, en tout cas, ce roman de 360 pages est un vrai page-turner avec des chapitres courts, une écriture très ciselée. Comment s'est fait le travail avec Céline Toulouse et les éditions Récamier pour ce livre ?
C'est un travail éditorial toujours très, très enrichissant. Avec plusieurs lectures, que ce soit de la part de Céline Toulouse, mon éditrice, ou de la part des équipes, les correcteurs, les correctrices, etc. En fait, avec Céline, je travaille depuis de nombreuses années. Donc, c'est vrai qu'il y a un véritable confort de travail qui s'est installé entre nous. Elle me connaît bien, je la connais bien. Les propositions qui fusent de part et d'autre sont toujours très très enrichissantes et très intéressantes. C'est un véritable dialogue. Je sais en tout cas que quand elle met le doigt sur quelque chose qui ne va pas, elle a souvent raison. Alors après, oui, on discute de la manière d'améliorer le texte le plus possible, que ce soit au niveau de l'intrigue, que ce soit au niveau du style, que ce soit au niveau de la construction. Et c'est toujours un véritable plaisir de travailler avec elle.
Et certains de vos romans ont fait l'objet d'adaptations pour le cinéma et la télévision. Il y a eu notamment Duel, adapté de votre roman Derrière la haine, qui avait reçu de nombreuses récompenses en 2020. Il y a aussi un remake intitulé Mother's Instinct avec Anne Hathaway, Jessica Chastain et Caroline Lagerfeld, qui sera à découvrir dès le 1er mai 2024 en Belgique. D'ailleurs, est-ce qu'on peut dire quelques mots de ce film et dont vous avez pu assister au tournage en 2022?
Oui, tout à fait. C'est-à-dire que le tournage s'est fait dans New Jersey au mois de mai-juin 2022. Donc, forcément, j'avais très envie d'aller faire un tour et de rencontrer des actrices. C'est pas tous les jours qu'on peut rencontrer Jessica Chastain et Anne Hathaway. Et donc, en effet, j'ai été très, très bien reçue sur le tournage. J'ai pu échanger quelques mots avec les actrices. J'ai pu évidemment voir la façon dont tout ça se faisait. C'était quelque chose d'assez magique, de complètement surréaliste d'ailleurs pour moi, et c'était c'est un rêve, quoi. C'est vraiment quelque chose d'incroyable de voir une histoire qui est sortie de ma tête, qui est sortie de ma plume, être adaptée aux États-Unis par des stars hollywoodiennes.
Bon, en tout cas, voilà, c'est un film à découvrir dès le mois de mai en Belgique. Et puis, vous aurez des rencontres qui sont prévues prochainement en librairie, dans des salons?
Oui, je vais au salon de hier, début mai. J'irai aussi chez Gérard Collard, je pense que c'est le 5 juin, si mes souvenirs sont bons. Après, j'ai des rencontres en Belgique, notamment le 22 juin à la FNAC, à Bruxelles. Dans une librairie aussi chez Cook & Book, c'est le 22 mai. la promotion bat son plein. Je crois que j'ai encore quelques dates, mais qui ne me viennent pas comme ça à l'esprit. Mais voilà, une promotion tout à fait normale entre les salons, les rencontres en librairie, et les interviews comme maintenant.
Eh ben, merci beaucoup. Et il me semble d'ailleurs que vous avez commencé la promotion puisque vous étiez au Festival du Livre de Paris, pour commencer à promouvoir ce livre.
Tout à fait. Oui, tout à fait. Et la semaine d'avant à Quai du Polar, à Lyon aussi.
Et pour vous, quel est le rôle de l'écrivain dans notre société ?
Oula, vous avez du temps.
En quelques mots.
Ben, je pense. D'abord le rôle de l'écrivain est avant tout, je pense, de divertir, de donner du plaisir à la lecture d'un roman au lecteur. Après, c'est vrai que il peut passer énormément d'émotions, de messages si le thème de son livre le permet et de faire en sorte que le lecteur puisse s'évader, que ce soit à travers une histoire ou à travers une idéologie, à travers un style aussi, voilà, en quelques mots. Hein.
Et vous avez d'autres projets, Barbara Abel, peut-être un autre livre ?
Alors, pour le moment, je suis sur la fin d'une série, de la saison 2 d'une série que je coécris avec Sophia Perrier, dont d'ailleurs la saison 1 va être diffusée le 2 mai, à partir du 2 mai sur TF1. Et voilà, et donc on achève l'écriture de la saison 2 pour le moment.
Et donc la série qui sera diffusée sur TF1, de quoi ça parlera et quel sera son nom ?
Donc c'est une série qui s'intitule Attraction, diffusée sur TF1 à partir du 2 mai. C'est une mini-série, c'est un 6x52 minutes, et voilà, et c'est un thriller domestique et psychologique comme j'aime les faire, et c'est une famille bien sous tout rapport dont la femme va commencer à soupçonner son mari. Voilà, je n'en dirai pas plus pour ne pas divulgacher soupçonner son mari de quoi. Vous le verrez si vous regardez la série sur TF1.
Voilà, donc rendez-vous dès le 2 mai sur TF1. Et puis surtout rendez-vous en librairie avec Comme si de rien n'était, votre nouveau livre paru aux éditions Récamier. Un grand merci Barbara Abel d'être intervenue sur Citadio pour nous parler de ce livre. On vous souhaite le meilleur pour l'année 2024. Prenez soin de vous et à bientôt.
Je vous remercie beaucoup, au revoir.
Fin de Tout en Auteur, merci à tous nos invités aux maisons d'édition et bien sûr merci à vous pour votre fidélité. N'hésitez pas à écouter notre programme sur notre site citeradio.fr. Bonne soirée, prenez soin de vous et à bientôt sur Cité Radio.
Je déambule sur les lignes du métro, crépuscule sans héros, solitude dans le rétro. J'éteins mon mégot sur le cœur des Jedi, les yeux vitreux, je les mitraille. Un peu saoul sans matricule, j'écume la nuit noire, je consomme du bonheur que je perds sans savoir. Je t'oublie quand je me déhanche, je souris, souffle dimanche.